Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 2.6 de l'Afrique contre-attaque. Nous parlions tout à l'heure ou dans l'émission précédente, toujours du changement des mentalités, et nous avions insisté que le docteur Caroline Leaf disait que pour changer en fait notre cerveau, nous devons utiliser notre esprit, le mind, et elle définit le mind, l'esprit, comme la façon unique dont nous pensons et ressentons les choses et choisissons. Et nous avons dit que cela est aussi lié à trois principes égyptiens qui étaient connus déjà, à savoir le ka, le ba et le hak, qui sont liés au fait à ces trois éléments. Donc le ka équivaut à la pensée, le ba équivaut aux émotions, le ba qui peut aussi être le jeb, et le hak qui aussi est en relation avec les choix que l'être humain fait. Mais au-delà de ces trois principes-là, il y a aussi ce qu'on appelait le ren, qui était le nom, qui était sacré, qui était important en Égypte ancienne. Et son importance faisait que le nom du pays même était symbolique. Et nous avons vu que ce nom-là est lié aussi au nom Congo, que l'on retrouve en Afrique centrale, que ce n'est pas simplement la lecture phonétique qui donne l'identité ou la signification des hiéroglyphes, mais c'est aussi la lecture symbolique. Et c'est un travail qui a été très développé par un chercheur qu'on appelle Dibomba Rimbok, qui a inventé une méthode qu'on appelle la méthode Kuma, à savoir lire les hiéroglyphes à travers les symboles, donc une pensée analytique. De mon côté, par rapport à ce que j'ai pu faire comme recherche, j'ai aussi découvert que le nom de l'ancienne Égypte, qui était d'abord Tameri, qui est connu de tout le monde, mais est aussi lié à celui du Congo, car dans la graphie de Tameri, on a le symbole de la U. Et à travers la méthode Kuma, on peut simplement lire un élément pour avoir le nom de l'ensemble. Donc la U, qui est Congo, donne l'identité de cette Tameri. Donc on peut lire Tameri, oui, c'est vrai. Mais Congo est beaucoup plus juste. Et mieux encore, le symbole de la U veut dire aussi bien, parce qu'on a, nous avons simplement Tameri. Meri là, ça veut dire aussi bien la U, et ça veut dire aussi bien l'amour, ça veut dire l'unification, car ce nom a été donné peu de temps après que Narmer, le fameux pharaon, l'homme léopard, ait rassemblé les deux terres, c'est-à-dire le nord et le sud, et formé l'État d'Égypte, donc unifié toutes ces nations-là. Quand je dis nations, en fait, plutôt je veux dire tribus, car c'était supposé d'avoir 42 tribus à cette époque-là, ou des nomes, ou des provinces, qui l'a fédéré ensemble. Donc on a à la base la notion d'amour, la notion de d'unification, et surtout aussi de travail, car la terre devait être mise en valeur. Au fait, il y avait des tribus nomades qui venaient du sud et seules sédentaires qui étaient au niveau du nord. Et il y a eu un clash entre ces deux-là. Et après la paix, il y a par exemple un artefact où on retrouve le papa de Scorpion, le papa de Narmer qui s'appelle Scorpion. Certains égyptologues disent que ce même personnage est aussi Narmer lui-même. On le voit avec une houe dans un document symbolique qui montre l'unification de l'Égypte. On voit le pharaon qui soit Scorpion ou même peut-être même Narmer avec une houe à la main représentant cette Tameri là, représente ce pays de la houe, ce pays de l'amour, car le mot de la houe, l'instrument pour cultiver, et le mot de l'amour, c'est le même en égyptien ancien. Même chose chez les Congo en RDC, la houe, c'est le nom du pays, c'est la houe, c'est aussi le nom de l'amour. Congo, le Congo là. C'est la même chose, donc on a la même pensée symbolique. Comment est-ce possible? Eh bien, tout simplement par les langues qui sont les mêmes, démontrées par Jean-Claude Mboli, qui a démontré au fait que l'ancien égyptien, les langues africaines sont dans le même univers. Travail que Cheikh Anta Diop avait déjà fait en son temps avec le professeur Théophile Obenga. Jean-Claude Mboli venait encore enforcer le dernier clou dans le cercueil qui doit emporter avec lui toutes les falsifications liées à l'histoire de l'Afrique. Donc, ceci étant dit, nous savons aussi qu'il y a eu des migrations. Il y a des peuples qui sont venus du sud de l'Afrique ou du centre de l'Afrique qui sont remontés. Voilà pourquoi nous avons cette parenté linguistique là. Et après, ils sont revenus. Après, avec les invasions des Assyriens, des Perses, des Grecs, des Romains, des Arabes, il y a eu beaucoup de migrations qui sont faites, ce qui fait que ces peuples-là ont quitté les terres qu'ils habitaient de la Tameri. Ils sont venus peupler d'autres royaumes. Et il y a ce groupement-là qui est revenu en Afrique centrale avec cette même pensée symbolique-là de Congo. Voilà pourquoi on retrouve ces peuples-là. Et nous avons dit par exemple au Congo aussi, au royaume, en tout cas dans le pays Congo que nous avons aujourd'hui, le pays la RDC, nous avons par exemple les Nandi qui font partie du groupe des Kalenjin dont nous avons parlé lorsque nous parlons de la Grande Pyramide. qui viennent, qui ont participé à la construction de la Grande Pyramide. On a parlé de ça. Donc au niveau de la RDC, on retrouve beaucoup de le lien avec l'Égypte ancienne, particulièrement aussi les Mangbetu, la tribu qu'on appelle Mangbetu, qui ont cette particularité d'allonger leur crâne. Les femmes allongent leur crâne, les crânes de leurs enfants. Et c'est tout à fait une particularité de la 18e dynastie avec le pharaon qu'on appelle Akhenaton. Lui, sa femme et ses enfants, ses filles, avaient tous des crânes allongés. Et lorsque le laboratoire qu'on appelle DNA Tribe a fait des expériences pour savoir qui étaient les anciens Égyptiens, d'où ils venaient, eh bien, ceux de la famille d'Akhenaton, en la 18e dynastie, on a remarqué qu'ils venaient tous d'Afrique centrale, donc de la région très proche des Mangbetu. Donc on voit que ce soit la pratique culturelle qu'il y a sur le terrain avec les Mangbetu, que ce soit l'ADN qui situe Akhenaton par rapport à cette même zone géographique-là, et par rapport à la langue, on voit que, eh bien, même très très tard dans l'histoire de l'Égypte, même pas les premières dynasties, mais très très tard dans l'histoire de l'Égypte, on voit toujours des liens africains noirs, forts, toujours ancrés dans la civilisation égyptienne, que ce soit dans la pensée, que ce soit dans la pratique, que ce soit dans la philosophie, s'il faut résumer ça de la sorte. Donc tout ceci, au fait, ce n'est pas pour nous auto-congratuler, pour dire l'Égypte c'était beau et tout ceci, cela. C'est pour comprendre, en fait, quelle est l'histoire, afin de pouvoir comprendre cette mentalité. Quelle est la mentalité de laquelle nous baignons, comment nous pensons, comment nous réfléchissons et comment nous pouvons vaincre nos peurs, nos névroses, nos psychoses. Car il faut bien parler de névrose lorsque nous avons parlé dans l'émission précédente du syndrome du sphinx dont nous sommes victimes. Et il y a d'autres syndromes aussi, comme le syndrome de Stockholm, qui se justifie par le fait que l'homme noir africain aime plus ses bourreaux que les siens. Et ce syndrome du sphinx, qui au fait est un déni de nous-mêmes. C'est un déni de nous-mêmes et nous n'arrivons pas à avancer à cause de ce syndrome. Eh bien, les anciens Égyptiens connaissaient ce problème, et ils l'avaient appelé Shuyet. Shuyet, ça signifie l'ombre, en anglais, the shadow. Et le concept de shadow est exploré aussi par Carl Jung et Sigmund Freud. Et surtout Carl Jung qui a développé cette pensée-là, que l'on retrouve déjà en Égypte. Et je tiens à signaler que Freud était extrêmement intéressé par l'ancienne Égypte, car il y a beaucoup de photos où on montre dans son bureau avec des artefacts égyptiens. Et il a écrit un livre, je pense, Moïse et le monothéisme. Pour lui, Moïse était un prêtre égyptien, donc africain, bien qu'il n'a pas précisé noir, mais pour lui c'était un égyptien. Nous savons que les égyptiens étaient noirs, donc pour lui Moïse était un égyptien et non pas un hébreu, qui était héritier de la philosophie d'Akhenaton. Et vous voyez le lien facile, nous avons parlé d'Akhenaton tout à l'heure. Nous savons qu'Akhenaton, je viens de démontrer qu'Akhenaton était noir africain par rapport à l'ADN, par rapport à ce qu'il faisait, à sa culture, et nous savons aussi par rapport à la langue. Donc vous voyez que tout ce que nous disons est lié et relié. Alors, Sigmund Freud a écrit un livre, Moïse et le monothéisme, où il disait que, je répète, Moïse était un suivant de la philosophie d'Akhenaton. Akhenaton, qui était un pharaon qui avait voulu changer la religion égyptienne, disant que il voulait instaurer un monothéisme différent. Il n'a pas créé le monothéisme. Il y avait déjà le monothéisme avant, mais il a voulu le changer, car on parle souvent de lui comme un révolutionnaire qui a tout changé, qui ne voulait plus rien avoir à faire avec ce qu'il y avait avant. Mais on oublie que dans ses cultes, il faisait pratiquement toujours ce qui se faisait avant. Il utilisait toujours la croix Ankh. Il célébrait. Il y avait beaucoup d'éléments de l'ancienne Égypte qu'il construisait toujours à faire. Donc, ce n'était pas un changement aussi radical que l'on ne le pense. Donc, cet homme aurait influencé Moïse, et Moïse aurait, et ce qui aurait influencé Moïse à mettre les bases du judaïsme d'après Sigmund Freud. Donc ça, c'est une parenthèse, mais Sigmund Freud, on disait, il a travaillé avec Carl Jung, et ensemble, surtout Carl Jung a travaillé sur le shadow, c'est-à-dire l'ombre, c'est-à-dire pour les anciens égyptiens déjà, ce qui était le shuyet. Et qu'est-ce que le shuyet, en fait? Le shuyet est un concept très intéressant, parce que en fait, il est tout ce que nous consciemment ou inconsciemment niant, dénigrant de nous-mêmes, au fait. Je répète, l'ombre, le shadow, donc le chouette, quelque chose qui est en nous, un aspect de l'être humain, et tout le monde a affaire avec ça. Eh bien, l'ombre, le shadow ou le chouette pour les Égyptiens, et nous disons que nous sommes toujours en train de parler, de détailler les neuf états de l'esprit ou de l'âme selon les anciens Égyptiens. Il y en avait 9 pour eux. On a déjà dit, on a parlé du Ka, du Ba, du Ak. Et maintenant, nous avons aussi parlé du Rem qui fait partie de l'identité humaine. Donc, nous sommes en train de parler en fait des caractères de l'identité humaine par rapport à l'âme. Donc, nous avons le Ka, le Ba, le Ak. Je tiens à faire quelques petites. Des petits résumés pour que nous restons bien dans focus dans ce que nous faisons. Donc le Ka, le Ba et le Ak, nous avons dit que c'était lié à au fait que le Ka c'est la pensée, le Ba c'est les émotions, ce que nous ressentons, et le Ak c'est les choix, c'est les décisions que nous prenons. Et parmi cet au-delà de ces trois là qui caractérisent la personnalité humaine, nous avons le Ren qui est le nom, et nous parlons maintenant du chouette, c'est l'ombre, c'est le shadow en psychologie ou en psychanalyse. Et qu'est-ce qu'est le chouette au fait? Le chouette, nous le définissons comme l'ombre, donc, ou le shadow. La définition est telle que le chouette, l'ombre, le shadow, est tout ce que nous, consciemment ou inconsciemment, nions, dénigrons en nous-mêmes. C'est tout ce que nous rejetons, refoulons à propos de notre identité, mais qui fait partie de nous ou intégrante de nous. Alors, l'ombre, le shadow, le chouette n'est pas forcément l'immoralité que nous ne voulons pas. Ce n'est pas forcément ça. L'ombre ne peut pas être simplifiée par nos défauts, hein, par ce qu'on appelle en anglais the dark side. Donc c'est la partie mauvaise de nous, c'est juste le mal qui est en nous, the evil in us, hein, le mal qui est en nous. On ne peut pas simplement dire que le shadow c'est ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Nous refoulons dans le shadow même les valeurs positives que nous ne pensons pas avoir, nous les rejetons dans le shadow. C'est-à-dire une personne peut être belle, mais elle ne le croit pas, elle ne pense pas qu'elle est belle, elle va rejeter cette psychose, cette pensée-là, cet état de beauté dans le shadow. Elle ne va pas s'accepter comme elle est, elle va le mettre dans le shadow. Mais le shadow, c'est plutôt l'identité que nous avons acceptée comme diabolisée et diabolisante. C'est cette identité que nous acceptons comme diabolisée et diabolisante. Donc dans le shadow, nous ne devons pas simplement mettre toutes nos tares, tout ce que nous sommes, tout ce qui est mal, comme tuer, voler ou être jaloux. Non, le shadow aussi représente tout ce que nous refoulons, tout ce qui peut être comme valeur, comme être comme bien, mais que le système nous a fait croire comme mauvais, et nous le repoussons dans le shadow. Donc lorsqu'il fallait traiter une personne, traiter les névroses d'une personne, et vous trouverez facilement le jeu de mots entre nez et névrose, eh bien il fallait aussi s'occuper du shadow. Quel est le problème du shadow? Donc, lorsque nous voyons l'Africain, le chouette de l'Africain, il faut s'intéresser à ça. Voilà pourquoi nous avons commencé notre petite émission avec le sphinx, avec le nez. Parce que dans le chouette, dans notre shadow, nous avons un problème avec notre nez, nous avons un problème avec notre couleur, nous avons un problème avec qui nous sommes, notre identité, avec nos cheveux. Je tiens à rappeler que pour les anciens, par exemple, comme la divinité suprême était représentée par une tête de bélier et un corps d'homme, et que même dans la religion, dans la pensée chrétienne, on parle de l'agneau immolé. Hein? Voilà pourquoi souvent les premières offrandes étaient des offrandes d'animaux, comme le bélier. Et tout ceci, je crois que j'en ai déjà parlé. Quand on parle d'agneau, qu'il y a un agneau dans les cieux, ça montre que l'homme a été créé à l'image d'un agneau, hein, de l'image du bélier, hein, de ses caprins, de ses ovins-là. Et que les cheveux crépus, au fait, sont la laine. Voilà pourquoi on parle de cheveux laineux. Donc, dans la pensée des premiers hommes, c'est ça. L'homme a été créé à l'image d'un agneau qui est dans le ciel, et ses cheveux sont laineux. Donc, comme cet agneau-là dans le ciel, cette divinité-là, ce Dieu, est à l'image de l'agneau, eh bien, sa création aussi devait avoir des cheveux qui reflètent la peau de l'agneau, la laine. Donc, c'est dans la philosophie c'est comme ça que l'on imagine. Et vous connaissez dans les textes bibliques, on parle des quatre êtres vivants, et l'un d'eux, hein, on dit voilà, il y a un agneau avec beaucoup d'yeux. Et ça nous ramènera à un personnage qui a beaucoup d'yeux, qu'on appelle Osiris. On passera à ça beaucoup plus tard. Donc, c'est donc ça le chouette. C'est encore l'un des aspects de l'être humain. C'est une bataille qu'il y a entre nous-mêmes, hein, le chouette, le shadow. Beaucoup vont dire c'est le dark side, c'est la partie sombre qui est en nous, mais ça ne veut pas dire que ce sont simplement des choses négatives, immorales, non. Ce sont des choses dont nous avons même diabolisé nous-mêmes. Ça peut être une valeur que nous avons diabolisée. Le manque de confiance est dans le shadow. Le manque d'estime de soi est dans le shadow. C'est vrai qu'il y a des gens maintenant, avec le travail, comme nous l'avons dit, qui ont une meilleure perception d'eux-mêmes, mais nous avons encore une meilleure perception du groupe. Et c'est encore notre problème que le professeur David Walker, qui a écrit de magnifiques livres sur l'histoire africaine, évoque que l'Africain en lui peut avoir une image positive de lui-même, mais il n'a pas l'image positive du groupe. Voilà pourquoi nous avons du mal à créer des entreprises ensemble. Nous avons du mal à nous associer. Nous avons du mal à aller de l'avant. Évidemment, nous ne devons pas aussi caricaturer ces choses. Les entreprises qui échouent entre différentes communautés sont aussi nombreuses. On veut simplement faire beaucoup de stigmatisation sur les Noirs. Les Noirs ne peuvent pas travailler entre eux, ils ne peuvent pas faire ceci, cela. Tous ceux dont nous nous plaignons, tous ces mêmes problèmes, les autres les ont dans leur culture. Nous en avons parlé dans les émissions précédentes. Il est évident maintenant que, étant donné que nous sommes dans une réalité qui nous concerne, nous devons aussi appeler le chat par son nom et attaquer ces problèmes-là et les résoudre. Mais nous ne devons pas penser que ce sont des principes qui sont simplement spécifiquement africains par moment, des problèmes, disons. Mais il est vrai qu'il y a un contexte africain où le groupe africain, les groupes noirs ont été attaqués, ont été dénigrés afin que l'image et le négatif que nous connaissons aujourd'hui. Donc, nous parlons donc du Shuyet, qui est ce principe d'ombre-là, qui est en nous, qui est un état de l'esprit et avec lequel il faut aussi apporter des solutions. Et nous apportons ces solutions par rapport à l'information, hein, à l'information que nous apportons dans le groupe. Car pour changer le cerveau, eh bien, il faut que la pensée soit dirigée vers le positif. Voilà pourquoi ici, nous allons donner ce qui est positif dans l'histoire africaine. Nous allons donner ce qui est important et intéressant afin de toucher l'âme, les émotions, comment nous nous ressentons par rapport à nous-mêmes, afin que nous puissions nous aimer entre nous et aimer l'humanité, et afin de faire les bons choix, hein, choisir, acheter, supporter les économies de ceux qui agissent en notre faveur aussi. Donc, ces choix-là que nous faisons, car où achetons-nous? Hein, où nous éduquons-nous? Qu'est-ce que nous écoutons? Hein, qui finançons-nous? Alors, ces choix de finances que nous faisons, eh ben, seront redirigés vers des endroits beaucoup plus profitables à nous. Lorsque nous penserons correctement, lorsque nous nous ressentirons correctement, eh ben, nous ferons ces choix-là économiques beaucoup plus sagement. Donc, pour résumer encore, nous avons parlé du K, du Ba, du Hak, du Ren, du Shuyet, qui est un élément très important. Nous allons maintenant parler aussi du Kat. Le Kat, c'est le corps, tout simplement. Nous allons aller très vite là. Le Kat, c'est le corps. Eh bien, c'est la couleur de la peau. C'est comment est-ce qu'on se voit. Et là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. On connaît tous les préjudices qui ont été faits par là. J'en ai parlé tout à l'heure avec le problème de dépigmentation et d'hydroquinone qui crée des cancers et tout un tas de problèmes sociaux. Et nous devons comprendre que l'ancienne Égypte, c'est la civilisation. Je pense que j'en ai parlé. La première qui a conçu une sorte de ministère de la santé afin que toute la population puisse avoir accès à un médecin. Et quand les pyramides étaient construites, il y avait des médecins traitants, soignants qui étaient sur place, de sorte que les os ou les ossements qu'on a retrouvés des ouvriers de la grande pyramide ou les chantiers des pyramides, ces ossements-là ont des traces de guérison, des traces qui montrent qu'ils ont été soignés par des docteurs. Il y a même des traces d'une momie qui a été retrouvée, d'un corps qui a été retrouvé, des ossements, où une personne, ou un papyrus, si je ne m'abuse, une personne avait une tumeur au cerveau. Le docteur ancien égyptien a opéré, et la personne a vécu 2 ans de plus. C'est documenté. Donc, il y avait déjà des opérations au niveau du cerveau, et les tumeurs qui étaient traitées à ce niveau-là. Et c'était un travers de l'ancienne Égypte. Un autre élément qui montre que ce n'étaient pas des esclaves, car si un esclave a une tumeur, eh bien on va le tuer, on va le jeter, on s'en fout. Mais ici, on voit que c'était des gens dont on prenait soin, car ils étaient en train de travailler pour quelque chose de remarquable et de national et de noble. Donc, nous passons au corps, c'est très très compréhensible. Donc, le corps, prendre soin de son corps, manger aussi sainement, c'est très important. Le corps, il faut manger sainement, il faut prendre soin de ce corps, il faut se faire soigner. C'est important dans nos visions des choses, et cela nous ramène plus loin à des concepts comme investir dans la phytothérapie africaine afin que nos plantes soient valorisées et que nous ayons des produits performants, que nous puissions croire et investir dans la médecine africaine au lieu de toujours aller voler chez les autres pour se faire soigner au-delà des frontières africaines, alors que nous avons le génie et les plantes en nous. La phytothérapie, la biodiversité est beaucoup plus forte en Afrique centrale. Les plantes que nous avons, le monde entier vient chez nous pour étudier nos animaux, nos serpents, et prendre leur venin afin de pouvoir en faire des sérums, prendre nos plantes afin de pouvoir en faire des médicaments. Que faisons-nous? Eh bien, nous attendons que le produit soit fini pour pouvoir acheter, et on se plaint après de l'oppression. Ici, nous avons le modèle pour changer cette mentalité, et faire cette étude psychanalytique dont nous avons hautement besoin afin de changer nos mentalités. Nous continuons. Le prochain élément de ces 9 parties, c'est le Saou. Le Saou, je précise que tous ces éléments sont des éléments extrêmement complexes et compliqués. Quand si vous allez dans des sites internet et que vous tapez ces mots, vous aurez des définitions très 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 confuses par les égyptologues. Mais nous ici, nous allons les ramener par rapport à la pensée africaine et c'est là où les choses deviennent beaucoup plus claires. Alors le Saou, S-A-H-U, et ben ça renvoie à la mémoire tout simplement, à l'héritage, à ce que nous léguons, à l'impression que nous faisons, qu'une première impression que nous faisons devant les gens, ou à la réputation. Je crois que c'est Warren Buffett qui disait que la réputation, elle prend toute une vie à construire, mais elle prend quelques secondes pour être détruite. Donc le Saou, c'est tout ce qui est mémoire, tout ce qui est l'héritage, tout ce que nous léguons à l'impression, à la réputation que nous avons. Donc lorsque un homme, un individu est traité, eh bien, nous devons traiter aussi qui il est, sa mémoire, ce qui lègue aux gens, l'impression, sa réputation, son comportement. C'est ça qu'il faut aussi amener à changer chez la personne. Et ça, les humanités classiques aussi y contribuent. Car nous n'avons plus l'impression d'être simplement des négrillons ou des gens qui sont venus accompagner les autres ou travailler pour les autres. Mais nous comprenons que nous avons de la valeur, nous savons qui nous sommes, nous connaissons notre histoire et nous pouvons aller de l'avant. Alors, l'un des derniers éléments ici, ou le dernier si je ne m'abuse, si je ne me trompe, c'est le Sekhem. Le Sekhem, c'est le pouvoir. Nous avons parlé ici, je crois brièvement, d'un livre qui s'appelait « Les 48 lois du pouvoir ». Un livre très apprécié, surtout dans la communauté noire américaine, dans le hip-hop, parce que ce sont des lois qui montrent comment en fait obtenir le pouvoir. Il s'est inspiré des grands personnages de l'histoire, dans la guerre, dans la politique et dans la royauté. Mais très souvent, ce livre-là, de Robert Greene, il est très orienté occidental ou parfois oriental. Mais sur l'Afrique, il n'y a pratiquement rien. Et notre émission, nous avons dit, notre show, il sera beaucoup plus consacré sur la perspective africaine de ces choses, la perspective africaine du pouvoir. Car le pouvoir, il y en a eu en Afrique, même si les guerres n'étaient pas très légion, nous n'avons pas une mentalité de la guerre, mais nous avons eu à faire la guerre quand c'était nécessaire, quand les Hyksos ont envahi l'Égypte, lorsque l'Égypte a été formée ou créée avec Narmer, avec Taharqa, avec Ramsès II, III, Toutmosis III, qui est peut-être le plus grand général de l'histoire de l'humanité, donc un Africain. Eh bien, il y a des principes que ces gens avaient et nous avons ces principes-là et nous allons tout au long de nos émissions les expliquer et les démontrer ici. Dans le Sekhem, c'est le pouvoir, car tout être humain a un pouvoir. Car ces éléments ici, ces 9 éléments, on les dit comme être étant les éléments de l'esprit, soul, mais on sait aussi que ce sont des éléments qui font partie de la personnalité humaine tout simplement. Car tout le monde a un esprit, tout le monde a une âme, tout le monde a un pouvoir en lui. Et voilà pourquoi parfois vous voyez des gens qui disent que voilà, il a vendu son âme au diable, il a vendu son âme pour montrer que l'âme, ça a de la valeur, que c'est l'âme, c'est ça le pouvoir. Et lorsque les gens vont vendre leur âme pour avoir un pouvoir quelconque, occulte ou je ne sais quoi, c'est pour montrer que le pouvoir, en fait, c'est l'âme en question. Et dans cette âme-là, il y a ce qu'on appelle le Sekhem, c'est-à-dire le pouvoir en ancienne Égypte, que tout le monde a un pouvoir qu'on peut qualifier par un don, qu'on peut qualifier par un talent, qu'on peut qualifier par un don inné ou un charisme intérieur. Mais tout ce qui est charisme, oui, il y en a, on dit que étant né leader ou on le devient, je pense que c'est un petit peu des deux. Car il y a un livre de Robert Greene qu'on appelle Mastery, où il explique très bien que des personnes, même comme Léonard de Vinci, bon, ça c'est dans le paradigme européen. Nous allons prendre plutôt Imhotep qui est un savant multidisciplinaire, un polymathe noir africain qui a construit la grande pyramide de Saqqara, c'est-à-dire la première grande pyramide à degré, qui était en même temps docteur, qui était en même temps chimiste, physicien, mathématicien, politicien. Donc rien à envier du tout à Léonard de Vinci. Au contraire, c'est Léonard qui a puisé dans les écrits égyptiens, parce que même la Joconde, après analyse, elle a une grande symbolique qui nous rappelle Isis et Osiris, donc toujours dans le berceau et égyptien, et Horus aussi. Donc, il nous montre, Robert Greene, donc par rapport à Léonard de Vinci, que le monsieur était certain polymathe, mais il n'est pas né comme ça, il n'a pas eu toutes ses créations rien que par la bénédiction de son cerveau. Il a travaillé pendant des années afin de perfectionner son art, et que ses premières productions n'étaient pas si belles que ça, mais qu'il travaillait afin de développer son talent. Et Imhotep, c'est la même chose. Imhotep, oui, il est né avec des capacités. Il était fils d'un d'une personne pas forcément noble, mais là, sur arriver jusqu'au se hisser au pouvoir. Et c'est un très bon exemple d'un intellectuel qui arrive à influencer le politique, car dans nos quatre clés du changement des mentalités, qui est notre grand thème, avec beaucoup de sous-thèmes, eh bien, Imhotep est un excellent exemple de celui-là, qui venait peut-être d'une classe basse, mais qui a su arriver au pouvoir, influencer les politiciens, comme Djoser qui était pharaon, et changer toute la civilisation égyptienne à jamais. Donc, cet personnage est un homme qui expérimentait beaucoup. C'est lui qui, par exemple, à la base aussi, on parle de la pierre, les géopolymères, la pierre agglomérée, la pierre moulue qui a servi à construire les pyramides. Et ben, cet personnage d'Imhotep, tout comme Léonard de Vinci plus tard, sont deux personnages qui ont passé des temps à développer leur art. Ils ne sont pas nés comme ça génies. Certainement, oui, ils sont... ils avaient forcément un QI peut-être élevé, mais c'est le travail assidu de leurs œuvres, sur leurs œuvres qui l'ont permis d'arriver là où ils sont. Et nous allons aussi bientôt faire cela, où il y aura une émission où nous parlerons de Imhotep, sa vie, son pouvoir, une série que nous introduirons bientôt, où nous allons voir les étapes de la maîtrise telle que développée par Robert Greene, mais adaptée à la vie de Imhotep, cet Africain polymathe. Donc, c'est ainsi que on peut développer sa notion de séquem, de pouvoir, de talent, de don. C'est-à-dire que oui, tout le monde a un don, tout le monde a un talent, mais c'est par le développement, c'est par le travail, c'est par le temps qu'on peut arriver à développer ce séquem-là, c'est-à-dire à être un maître dans ce que l'on entreprend. Car il faut bien qu'on se le dise, que c'est par le travail, par le développement, c'est le travail en soi que nous arrivons à maturité. Donc, pour revenir encore, pour récapituler, nous avons donc parlé du K, du bas, du hack. Le K, c'est la pensée. Le bas, c'est nos émotions. Le hack, c'est les pouvoirs décisionnels que nous avons lorsque le K et le bas est déjà bien formé. Donc le K, c'est par rapport aux humanités. Et tout cela est nourri par quoi ? Par les humanités classiques africaines. Les humanités classiques africaines, le savoir le plus ancien dans l'histoire d'une civilisation, de l'histoire de l'Afrique, d'une tribu, d'une contrée. Donc nous avons le K, le bas, le hack, qui est la manière originale dont nous pensons, dont nous ressentons les choses et choisissons. Et ensuite, nous avons le renne, qui est le nom. Donc, le nom, nous devons faire attention au nom que nous portons. Hein, nous avons parlé, par exemple, du nom symbolique que l'Égypte et le Congo portent. C'est le même nom. Nous parlons du kat, du corps. Hein, comment nous voyons nous-mêmes? Est-ce que nous sommes complexés? Pas du tout. En tout cas, les Égyptiens ne l'étaient pas. Maintenant, nous le sommes, mais nous devons arrêter avec ce complexe du corps. Aussi, il y a le JB qu'on va associer au bas, car c'est le cœur. On associe ça donc au bas. On a le Saou qui est la mémoire, l'héritage. Et voilà ce que nous faisons, un travail d'héritage ici, où nous partageons avec le plus grand nombre les humanités classiques africaines, ce qui est important pour l'âme aussi. Car je pourrais bien être là à être frustré et à me dire « Oh, mais voilà, il y a des gens qui manipulent l'histoire. » Non. Qu'est-ce que je peux faire pratiquement? Le peu de connaissances que j'ai, eh bien, je le partage avec les autres gratuitement. Et ça fait du bien à mon âme. Je me sens à l'aise, au lieu d'aller dans la page de quelqu'un et commencer à spammer et à rager sur le fait que notre histoire est manipulée et autres, ou dans un groupe simplement, sans avoir d'arguments, de contre-arguments ou de choses beaucoup plus pratiques et pragmatiques à faire aussi. Nous devons donc être à la hauteur de cet héritage-là. Nous avons parlé de séquem, de pouvoir, hein, qui est cette capacité-là à élever notre âme, notre talent, afin d'arriver à la grandeur. Donc, nous avons aussi parlé aussi, j'oubliais, le chouette qui est l'ombre, qui est cette partie refoulée, tout ce que nous refoulons, tous ces complexes, tout ce manque de confiance en soi, toute cette névrose que nous refoulons, que nous refusons d'accepter. Je me rappelle, il y avait un philosophe, il y avait un monsieur, il y avait un micro-trottoir qui se faisait en France, et on demandait aux gens, par une télévision européenne, on demandait aux gens, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que c'est d'être noir? Et on a demandé à un monsieur qui a approché peut-être la quarantaine, cinquantaine, il disait, eh bien moi je suis pas noir, je suis philosophe, je suis pas noir. Pourtant le monsieur était africain avec des cheveux crépus et tout, hein. Mais il dit, non, moi je suis pas noir, je suis philosophe, hein. Et moi je suis pas noir. Ou un autre témoignage que j'entendais d'un monsieur à qui on avait posé la même question et qui disait, non, moi je suis pas africain, je n'ai rien à voir avec ce contenu de merde. Bon, excusez-moi pour le langage. C'est tout simplement pour dire que voilà, il y a des névroses. On peut être né en France et ne pas avoir l'attachement pour le continent africain. Tout à fait normal, c'est tout à fait normal. La peau ne veut pas forcément dire qu'on est attaché à une certaine culture. Il faut bien comprendre ces choses-là. Mais il ne faut pas aussi négliger le fait que l'apparence joue beaucoup. Et simplement nier ce fait-là, eh bien, nous renverra cette réalité tôt ou tard dans notre vie. Donc, nous en avons ici fini avec cette courte, je l'espérais, partie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Écoutez, nous nous retrouvons prochainement. Merci beaucoup. Bye bye. On attend vos réactions.